voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Pierre Mourkens est un entrepreneur au parcours original qui a su mettre en pratique ses valeurs humanistes dans chacune de ses fonctions. Son engagement au service de l'humain est motivé par une vision sociétale que certains qualifieraient d'utopie, mais qu'il veut rendre possible. Dans cette optique, il est convaincu que l'approche neurocognitive et comportementale permet à chacun de mieux être, de mieux vivre et de mieux travailler. Pierre Mourkens est le fondateur de Savoir-être à l'école, une association qui œuvre pour l'amélioration des conditions de l'enseignement et de l'apprentissage. Dans cette émission La Voix du Kaizen, donnons la parole à Pierre Mourkens qui nous parle de son parcours et nous présente l'association Savoir-être à l'école.
Moi, je suis peut-être un peu atypique. Je suis un étudiant qui était en dernière année d'études en sciences économiques en mai 68. Donc, j'ai connu ce moment palpitant d'une révolution de la pensée. Et suite à ça, d'abord, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père. Je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. Puis ensuite, j'ai créé une quinzaine d'entreprises dans ma vie. J'ai aussi repris la fameuse saga de Renault-Vilvoorde en Belgique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 20 ans exactement. Mais toujours, depuis l'âge de 27 ans, avec la passion de comprendre comment l'homme fonctionne. Donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et ça m'a permis, en fait, de rencontrer Jacques Fradin, qui est à la base même de ce qu'on appelle l'approche neurocognitive et comportementale, qui est donc directeur de recherche, si vous voulez, et que j'ai soutenu et qui m'a passionnément intéressé, que j'ai moi-même implanté dans mes entreprises. Et aujourd'hui je consacre et je me lève le matin avec le besoin de l'élévation de la maturité humaine, de l'élévation de la conscience humaine. C'est ça qui m'anime tous les jours. Voilà un peu mon parcours. Pour un chef d'entreprise, c'est un peu atypique, mais aujourd'hui, je donne énormément de conférences. Je travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise pour qu'eux-mêmes, qui sont en évolution, prennent conscience des capacités que chacun a, aussi bien l'ouvrier que le chef d'entreprise. Au fond, on en est tous au même stade, à ne pas savoir comment on fonctionne. Et donc, c'est pour ça que mes conférences ou mes ateliers sont à la portée de tous et ça permet vraiment de faire des bons sur la connaissance de soi d'abord et puis de changement de regard sur l'autre et sur soi-même.
Et comment être passé du monde de l'entreprise à celui de l'éducation et de l'école ?
Parce que, donc moi, il y a maintenant à peu près 12 ans que j'ai arrêté mes rôles de CEO dans les entreprises pour me consacrer à cela. Et très rapidement, j'ai compris que, l'éducation, ça commence quand on est tout petit, puisque tout s'imprime dans le cerveau. Il est important que les enfants bénéficient d'une éducation d'ouverture, de compréhension, d'avoir une intelligence ouverte et adaptative, et l'enfant a naturellement ça en soi. Le bébé, il naît avec une curiosité infinie. Le bébé, il a des potentiels incroyables. Bon, il n'est pas encore mature, mais son cerveau se forme chaque jour, et l'enseignement, donc savoir être à l'école, l'enseignement qui est donné dans les écoles, est un enseignement qui est encore du passé. Qu'elle soit privée ou nationale ou publique, ça n'a pas. Ce qui est important, c'est de comprendre que si l'éducateur, le professeur comprend comment fonctionne son propre cerveau et celui des enfants, eh bien, il peut passer de l'éducation du sachant qui vient donner sa matière à une forme de coach, d'enseignant qui va au contraire faire révéler les capacités de l'enfant par ce qu'on appelle de la pédagogie inversée ou de la neuropédagogie.
Alors là, j'ai besoin de comprendre. Pédagogie inversée, neuropédagogie, allons-y.
Alors, la pédagogie inversée, enfin, c'est la même chose que la neuropédagogie, c'est en fait faire de la pédagogie en fonction de comment on apprend. Et on sait aujourd'hui que l'apprentissage, pour qu'il soit durable, doit passer par l'expérientiel. Donc, lorsqu'on met un enfant dans une situation, ou même un adulte d'ailleurs, dans une situation où il doit faire les choses, il doit découvrir les choses par lui-même et le réaliser, en fait, il va retenir, je dis 10 fois plus facilement, que si on lui donne une matière et qu'il doit apprendre par cœur ou qu'il doit, voilà, qu'il doit simplement l'ingurgiter. Parce qu'il aura vécu la chose. C'est l'expérientiel qu'on garde en mémoire.
C'est ce qu'on retrouve dans différentes pédagogies alternatives, Steiner, Montessori.
Absolument, absolument. Freinet, toutes ces éducations, ces manières d'enseigner, étaient perçues déjà à l'époque par certains. Mais voilà, le tout est de le rendre de plus en plus public, quoi, que chacun puisse en bénéficier. Alors, l'expérientiel va s'incruster dans notre cerveau de façon bien plus forte que simplement l'écoute ou entendre quelqu'un parler sur un sujet, parce que le fait de faire, le fait d'utiliser ses mains, ses sens, et de découvrir par soi-même entraîne une obligation de la réflexion, de la pensée. Et donc, on sait aujourd'hui que l'apprentissage passe d'abord par le néocortex préfrontal, donc ce qui est à l'avant du front, pour ensuite venir s'établir et se ranger, entre parenthèses, dans notre limbique, dans nos connaissances auxquelles on fait appel tous les jours pour faire des gestes simples, nos zones de confort, on s'arrête au feu rouge, on démarre au feu vert. On n'a pas à apprendre ça lorsqu'on est déjà adulte. Alors qu'un enfant a tout à apprendre et ce n'est que par l'expérientiel qu'il va en fait le retenir de façon plus approfondie. C'est tous les sens, c'est de le découvrir par soi-même. Bon, c'est comme ça que fonctionne le cerveau en fait.
Donc le parent qui entend ça, qui reçoit ce message, qui comprend que c'est par l'expérience que son enfant va apprendre, donc c'est au parent aussi de créer des situations pour que l'enfant puisse expérimenter un maximum de choses.
Oui, c'est comme ça. Et alors, ce que je conseille beaucoup aux parents, et je le fais dans toutes mes conférences, c'est d'apprendre ce qu'on appelle, nous, la communication ouvrante. C'est faire de la maïeutique, c'est poser des questions. Plus vous posez des questions, plus l'autre, la personne en face, va être obligée de passer dans son mode réflectif. Il va devoir penser, il va devoir imaginer, être curieux, être nuancé, et donc il va passer dans un autre mode mental. Nous appelons le mode mental adaptatif, cette capacité du néocortex préfrontal, donc qui est 20% de la masse du cerveau chez un adulte, qui est à l'arrière du front, alors que tout le reste c'est un mode limbique, c'est un mode, si vous voulez, automatique, c'est nos zones de confort où on a appris des choses, et ça nous sert bien, hein, ça nous sert tous les jours des milliers de fois. Toutefois, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, tout ce qui s'apparente à de la non-maîtrise, on ne va pouvoir le gérer qu'avec notre néocortex préfrontal, notre mode adaptatif, qui lui, de par la curiosité, la nuance, la souplesse, la prise de recul, va pouvoir en fait intégrer l'environnement et les changements qui se profilent autour de lui pour petit à petit apprendre et en fait trouver des nouvelles solutions. On le dit d'ailleurs, la nuit porte conseil. Eh bien, la nuit porte conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous endormez un soir avec un problème que vous n'avez pas résolu, une solution que vous n'avez pas encore trouvée. Et la nuit, votre cerveau, il continue à travailler. Il remet les choses en ordre. Et le matin, ça vous arrive, enfin moi ça m'arrive régulièrement, je me lève le matin et tilt, il y a la pensée qui me donne une solution au problème de la veille. Et ça c'est parce que pendant la nuit, le cerveau revoit un peu l'ensemble de ce qu'il a vécu et les choses se remettent en place et on est dans une forme de sérénité qui nous permet d'avoir les intuitions. Et toute l'éducation devrait être basée là-dessus.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Dans Savoir être à l'école, j'ai cru comprendre qu'on demandait aux enfants, première question quand ils arrivent le matin, c'est quelle est ta météo intérieure? Pourquoi interroger l'enfant sur ce qu'il ressent, sur ses émotions, sur ce qu'il se passe à l'intérieur?
Permettre à chacun de parler de ses émotions, c'est une chose essentielle. Donc, nous, dans nos générations de l'époque, montrer nos émotions, c'était pas bien, il fallait surtout rester, il fallait rester soi-même, soi-disant soi-même, sans trop montrer nos émotions. Alors qu'en fait, les émotions sont une expression de nos vécus, et nos émotions, il faut pas simplement pouvoir les exprimer, mais aussi pouvoir les comprendre. Si j'ai par exemple une émotion, si j'ai une émotion de joie, tant mieux. Si j'ai une émotion d'angoisse, ou de colère, ou d'énervement, d'agacement, ou de démotivation, il est très important de pouvoir l'exprimer. Hein, un enfant doit pouvoir dire « Maman, j'ai peur ». Si, il doit pouvoir le dire parce que ça veut dire que derrière cette peur, il y a probablement une pensée qui est en lui, qui est probablement fausse, sauf si, bien sûr, la peur est une réelle peur parce qu'il y a un danger véritable, mais beaucoup de nos angoisses sont en fait l'expression de pensées instables, de pensées incohérentes dans nos têtes. Et en fait, il faut aller à la base de la pensée pour pouvoir la corriger. Mais c'est ce que je fais beaucoup avec les patrons, etc. Prenons un exemple très simple. Voilà. J'ai horreur de l'irrespect. L'irrespect, ça me fait passer en émotion de, par exemple, de colère, d'agacement. Je trouve que c'est irrespectueux, c'est scandaleux. Admettons que ça fait partie de moi. Je vois quelqu'un devant moi qui fait un geste qui me paraît irrespectueux ou qui l'est, peu importe. Si je passe, moi, en colère, d'abord, je risque très fort d'être très irrespectueux par rapport à cette personne, de ne pas savoir gérer la situation, et donc, en fait, je suis complètement désarmé et je deviens ce que je n'aime pas. Je deviens moi-même irrespectueux. Et lorsqu'on travaille sur la racine de nos, par exemple, de nos colères, l'irrespect dans ce cas-là, eh bien, lorsqu'on travaille là-dessus, on peut commencer à prendre de la distance, de la hauteur, et on va rester très serein devant l'irrespect pour pouvoir la gérer. Tant que je passe en colère, je suis incapable de gérer l'irrespect. Et le jour où l'humain comprend qu'il faut sortir de cette notion de dualité, il pourra vraiment gérer ses émotions. Alors, une émotion de base qui pourrait être la colère, ben, dans ce cas-là, ben, elle ne va pas nous aider. Donc, il faut savoir gérer nos émotions, les comprendre et pouvoir se transformer.
Et donc, à l'école, c'est important, dans savoir-être à l'école, de remettre l'émotion au cœur de l'éducation.
Alors, l'émotion, il y a beaucoup d'émotions différentes. Ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer ses émotions pour pouvoir travailler sur les racines, ça c'est une chose. Et puis en fait, lorsqu'on travaille sur ses émotions, lorsqu'on construit, à partir d'émotions, on construit des qualités, en fait on construit ce qu'on appelle des sentiments. Les sentiments sont des émotions construites, mais de façon positive et intéressante.
Savoir être à l'école, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est, l'origine, pourquoi, comment, pour qui?
Donc en 2008, lorsque j'ai vraiment commencé à me consacrer entièrement au développement de l'Institut du neurocognitivisme pour former des centaines de personnes à ces connaissances, des adultes là, j'ai créé avec deux personnes en Belgique l'association Learn to Be, qui est l'équivalent de savoir-être à l'école en Belgique, parce que nous nous sommes dit, si on veut que les élèves, que les enfants puissent vraiment bénéficier de toutes ces connaissances, il faut commencer par travailler avec les professeurs. Parce qu'au fond, c'est eux qui, quelque part, influencent énormément l'éducation à l'école. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on puisse former les professeurs à la connaissance d'eux-mêmes et à la connaissance de l'être humain, donc des enfants qui sont avec eux. Donc, du coup, on a commencé par, on a choisi... Eux nous ont choisi 5 écoles pilotes. On a commencé avec 5 écoles pilotes où, par groupe de 15 professeurs à la fois, on les a formés sur 3 modules de 2 jours. Un premier module, c'est pour justement développer ce qu'on vient de dire, la maïeutique, développer la curiosité de l'enfant, l'ouverture d'esprit, sa capacité à ne pas rester dans ses automatismes, mais de réfléchir et de grandir. Le deuxième module touche beaucoup plus sur les motivations. Hein. Nous avons tous des motivations, mais dans les motivations, il faut savoir distinguer ce qu'on appelle les motivations épigénétiques, c'est-à-dire les motivations intrinsèques, les motivations profondes de quelqu'un, qui sont inconditionnelles et qui sont des trésors de vie pour la vie, qui sont passionnantes. Et il faut pouvoir les distinguer des motivations conditionnelles, parce qu'on a tous des motivations qui sont conditionnées par nos environnements, ce qu'on nous a dit, c'est bien de faire ça, c'est... Et en fait, lorsqu'on suit nos motivations conditionnelles, la grande différence, c'est que les motivations conditionnelles ont en fait pour objectif d'avoir des résultats ou de la reconnaissance, alors qu'une motivation inconditionnelle, c'est une motivation qui n'a pas besoin ni de résultats, ni de reconnaissance, pour vivre de façon intense et profonde. Et donc, lorsqu'on n'a pas de résultat, avec des motivations conditionnelles, on risque petit à petit de les perdre. D'ailleurs, dans le monde actuel, c'est ce qui peut entraîner aussi des burn-out dans les entreprises, etc. Parce qu'on donne toute son énergie dans quelque chose qui n'est pas vraiment nous-mêmes. Et le troisième module de 2 jours, c'est surtout, et c'est très important dans les écoles, c'est d'apprendre à savoir gérer, en fait, ce qu'on appelle l'agressivité défensive et offensive. La grande différence entre les deux, c'est que quand j'ai une agressivité défensive, je me défends de quelque chose, c'est-à-dire que j'ai, par exemple, j'ai horreur de l'irrespect, eh bien, je vais me mettre en colère devant l'irrespectueux. Au fond, c'est une agressivité défensive parce que je veux défendre une valeur. Et là, je passe en colère. Alors qu'en fait, l'agressivité offensive, elle vient de la notion de la dominance et de la soumission. Donc, lorsque un enfant, et c'est très important chez l'enfant, parce que ça se forme quelque part dans les 10 premières années de la vie dans le cerveau, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'un enfant doit avoir une structure. Il faut qu'il ait une structure autour de lui. Il a un besoin de liberté, c'est normal, mais si on n'encadre pas un minimum cette liberté, il y a cette notion de toute puissance qui s'installe en lui, c'est ce qu'on appelle aussi l'enfant roi. Et ça entraîne des comportements qui, petit à petit, sont des comportements qu'on appellerait de dominants, de manipulateurs, etc. Et donc, les professeurs, on les forme à la connaissance de ça pour savoir qu'en quelques secondes, on peut arrêter ce genre de comportement. Et lorsqu'on le fait très jeune, en fait, ça répare, ça les remet, ça les recadre pour qu'ils ne deviennent ni des dominants ni des soumis, hein, mais plutôt assertif. Je ne me fais pas... Voilà, je n'agresse pas l'autre, mais je sais aussi ne pas me faire agresser par l'autre. Et donc, il y a tout un champ de connaissances qui existe là-dedans et qu'on leur donne et qui, pour eux, c'est hyper précieux parce qu'il suffit dans une classe d'en avoir un ou deux et ça perturbe toute une classe. Donc, ils savent, on leur donne les outils pour gérer ça.
Pierre, j'aimerais que vous m'emmeniez dans une classe qui serait la classe de votre idéal, l'école idéale. Comment est-ce qu'elle serait selon vous? Comment est-ce que ça se passerait quand l'enfant arriverait le matin à l'école? Parlez-nous de l'école idéale.
Alors, comment je l'imagine? Les enfants arrivent le matin. D'abord, on pourrait imaginer un moment de silence, de méditation, de quelques minutes, pour poser les valises. Une fois que cela est fait, ça permettrait peut-être aussi à certains enfants qui ont envie de dire quelque chose. Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu, que ce soit à la maison, que ce soit dans la relation avec un autre élève ou même avec un professeur, un vécu, quelque chose qui pourrait être, peut-être pendant les quelques minutes qui vont suivre, un sujet de découverte, un sujet de partage. Une fois que cela est fait, on va rentrer dans l'apprentissage des matières. Alors, les matières, d'abord, on pourrait imaginer qu'on pose un problème. Je ne sais pas, on va parler de la fève de cacao. Prenons un exemple. La fève de cacao. Et alors, plutôt que de faire un cours sur la fève de cacao, c'est faire découvrir aux enfants, voilà, maintenant, vous avez 20 minutes pour essayer de trouver, d'en parler. Et puis, il y a une bibliothèque, il y a plein de livres, il y a des ordinateurs, et puis ils vont aller chercher. Et 20 minutes après, on se rassemble, qu'est-ce que vous avez découvert? Et puis alors, on va parler en fait de géographie, on va peut-être parler de la chimie ou de quoi est composée la fève de cacao, qu'est-ce qu'on peut en faire, où est-ce que c'est cultivé, qui sont les personnes qui cultivent, la chaîne, le flux de la chaîne de distribution. On peut faire des mathématiques à partir de là, on peut faire de l'histoire, on peut... En fait, c'est la transdisciplinarité.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.